explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Ils sont partout, du fin fond des océans au sommet des montagnes, en passant par la Station Spatiale Internationale et les joints de nos baignoires. Les champignons ont colonisé le monde. À vrai dire, ils étaient même là bien avant nous et n'ont jamais cessé d'occuper le terrain. Et ils ne se contentent pas de faire de la figuration. Si certains vivent en bonne entente avec le reste du vivant, d'autres se montrent moins amicaux. Dans le monde des champignons se cachent de redoutables parasites. Certains transforment les fourmis en zombies. D'autres exterminent les grenouilles. Les plus dévastateurs déciment des forêts entières. Et les humains ne sont pas épargnés. Nous faisons aussi partie de la liste des victimes des champignons parasites. Dans un livre passionnant intitulé « Les champignons de l'apocalypse » publié aux éditions Grasset, la biologiste Audrey Dussutour lève le voile sur ces organismes redoutables. Dans son ouvrage « Entre science et science-fiction », la chercheuse au CNRS raconte comment les champignons parasites peuvent bouleverser les écosystèmes et mettre à mal nos sociétés. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de prudence que nous partons en compagnie d'Audrey Dussutour explorer l'univers impitoyable des champignons parasites. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre naturaliste de terrain, Marc Giraud, qui lui a décidé de nous réconcilier avec les moustiques. Il va falloir être convaincant. Emma Bouvier a préparé cette émission. David Leprince la réalise avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Soyez les bienvenue dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Docteur Neumann, vous êtes également épidémiologiste. Selon vous, les micro-organismes représentent une menace.
Non, oui, une menace on ne peut plus concrète.
Les bactéries.
Non.
Ni les bactéries, ni les virus. Alors...
Les champignons. Oui, tout le monde réagit de cette façon. Ils nous paraissent inoffensifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que certains champignons ne cherchent pas à tuer, mais à prendre le contrôle. Il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. Le champignon traverse tout son système sanguin pour arriver jusqu'au cerveau qu'il inonde d'hallucinogènes. Ce faisant, il prend le contrôle total de cette fourmi. Les virus nous rendent malades, oui, mais les champignons, eux, peuvent altérer notre esprit. Une simple mutation et les ascomycètes, les candidats, les ergots, les cordyceps, les aspergillus, n'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous.
Extrait de la série Last of Us, dans laquelle un champignon parasite les humains et les transforme en zombies. Bonjour Audrey Dussutour.
Bonjour.
C'est cette série qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre sur les champignons parasites. Le champignon responsable de la zombification des humains dans cette série est un cordyceps. Les cordyceps existent vraiment ?
Oui, celui dont ils se sont inspirés, c'est Ophiocordyceps unilateralis. C'est un champignon qui s'attaque aux fourmis. Alors, pour l'instant, les Ophiocordyceps s'attaquent vraiment qu'aux arthropodes. Donc, on en a chez les araignées, chez les insectes, mais pas à l'humain. Et c'est vraiment de la science-fiction.
Oui, d'accord. Déjà, c'est bien de commencer tout de suite par nous rassurer. Parce que ce qu'il fait subir, ce cordyceps, à la fourmi, en la zombifiant, en faisant une fourmi zombie, c'est vraiment terrifiant. Racontez comment il s'attaque aux fourmis.
Oui, alors Ophiocordyceps, il produit des spores et quand une spore rentre en contact avec une fourmi, elle va germer, elle va rentrer dans l'organisme et elle va commencer à se nourrir des réserves nutritives de la fourmi. Et au départ, on ne voit pas ce que ça fait. Pendant 2 jours, elle se comporte plutôt normalement. Et c'est au bout de 2 jours où elle commence à être complètement hyperactive et à aller dans la végétation, à s'éloigner des autres. Mmh. Et si on observe très précisément la fourmi, on voit que ses antennes sont bloquées en forme de L, comme ça. Mmh. Elle ne peut plus, en fait, communiquer avec ses congénères. Et c'est pas plus mal, parce que les congénères savent reconnaître une fourmi infectée et peuvent l'euthanasier. Mmh. Donc la fourmi infectée, le champignon, il n'a pas intérêt à ce qu'elle se fasse choper par ses congénères.
Ouais. Donc en fait, déjà dans un premier temps, ce champignon, il a intérêt à l'écarter du reste
Exactement.
Du groupe, parce que les autres pourraient tuer leurs congénères parce que...
Oui, elles savent reconnaître les fourmis infectées. Donc en fait, au bout d'un moment, elle va aller dans la végétation, mais jamais très loin des pistes de récolte des fourmis. Mmh. Et au 6e jour, à peu près, elle monte sur une brindille et là, elle mord. Elle est animée de convulsions. Et là, elle ne pourra jamais plus se détacher de la brindille. Et là, on voit que le champignon finit par sortir au niveau du thorax, d'abord avec des ifs, des petits filaments, qui viennent la scotcher à la brindille définitivement. Et ensuite, après des fois quelques mois, mais des fois après quelques jours, ça dépend des conditions environnementales, une tige commence à sortir derrière la tête de la fourmi, une tige qui va faire jusqu'à 3 fois la longueur de la fourmi. Et ensuite, il va y avoir une espèce de petit coussinet qui va se former au niveau de la tige, c'est assez impressionnant à voir. Et ce coussinet, il est gorgé de spores. Mmh. Et ces spores, elles vont tomber en poussière sur les pistes de récolte et infecter les autres fourmis qui sont en bas. Mmh. Là où c'est un petit peu hallucinant, c'est que le champignon, il tient la fourmi comme un GPS, parce qu'il choisit des brindilles qui vont pas se faire manger par des herbivores, il va choisir des orientations au soleil particulières parce qu'il peut que se développer à une certaine température, avec une certaine degré de luminosité, donc c'est assez impressionnant.
Ouais. Mais c'est même complètement incroyable quand on y pense, parce que ce champignon, donc microscopique, c'est une spore qui se développe à l'intérieur de la fourmi, qui en mange une partie du contenu de cet organisme, et qui le pilote à volonté, qui lui fait faire ce qu'il y a dans son intérêt. Est-ce qu'on sait précisément comment il prend les commandes de la fourmi ?
Alors, quand on dissèque une fourmi, on voit qu'en effet, il est partout dans l'abdomen, puisqu'il a carrément mangé tout le gras de la fourmi. Et puis là aussi, au niveau du cerveau. Alors, il ne détruit pas le cerveau, mais il y a quand même en fait des ifs, des filaments du champignon qui sont connectés à toutes les parties musculaires en fait du cerveau de la fourmi, ouais. Et en particulier au niveau des mandibules, donc ce qui va lui permettre de faire la morsure. Et c'est lui qui contrôle en fait les muscles mandibulaires et plus la fourmi. Ouais. Et ensuite, on sait que ces champignons sont capables de sécréter des molécules, des toxines. Alors ça peut être des hallucinogènes. Ouais. Par exemple, il y a certains champignons qui parasitent les cigales, qui sécrètent des amphétamines. Ça peut être certains champignons, on le sait, hein, produisent par exemple de la psilocybine. C'est ouais. Le cas des psilos. Donc dans le cas de la fourmi, on n'a pas encore identifié les molécules qui sécrètent, ouais. Mais c'est des molécules qui vont mimer certains neurotransmetteurs.
Ouais. Alors, ce champignon, vous nous l'avez dit, hein, nous, pour le moment, en tout cas, on ne risque rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'attaquer aux humains et prendre le contrôle de nos organismes. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes sensibles à aucun champignon. Hein. Il y a des ravages de l'ergot de seigle, par exemple. Vous nous rappelez ce que c'est que l'ergot de seigle ?
Oui, l'ergot de seigle, c'est un champignon qui attaque le seigle, qui s'appelle Claviceps purpurea, qui produit à la fin de son cycle de vie une espèce de saucisse noire. Oui. C'est grand comme une petite saucisse, c'est un sclérote, c'est un bunker en fait pour le champignon, ouais. Ce qui va lui permettre de passer l'hiver. Et dans ce petit bunker, il sécrète des toxines pour ne pas être mangé par les herbivores, parce que le but pour lui, c'est de germer la saison prochaine. Or nous, quand on ramasse le seigle, on ramasse aussi ces petites structures, et elles sont remplies de toxines, dont des toxines qui vont créer des gangrènes, des hallucinations, puisque ce champignon est à l'origine du LSD. Il produit aussi quelque chose qui s'appelle l'ergotamine, qui est un vasoconstricteur qui va faire qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas, bien sûr, on mangeait ce seigle contaminé et les gens perdaient les doigts, les orteils. Mmh. Il y avait vraiment beaucoup d'amputés liés à ce problème d'ergot.
Et il semble aussi que ça puisse attaquer l'esprit et que certains devenaient fous au Moyen-Âge, mais même plus tard, hein, plus récemment, on soupçonne fortement l'ergot de seigle d'être à l'origine d'une affaire qu'on a appelée l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. C'est en 1951, hein, ce village a été frappé par une intoxication liée au pain qui a fait 7 morts et 250 intoxiqués.
L'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes.
Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Mes nuits, je les ai passées à murmurer le mot de saxophile, qui ne rime absolument à rien, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce. Ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas.
La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu.
Extrait d'une archive INA retrouvée par nos amis de RFI sur cette affaire qui a frappé hein, la commune de Pont-Saint-Esprit dans le Gard en 1951. Alors, faut dire que le mystère n'est pas complètement élucidé, mais qu'aujourd'hui, l'hypothèse la plus vraisemblable est que la farine était contaminée par l'ergot de seigle. Mais c'est-à-dire que les hallucinations décrites par ce témoin qui dit que sa fille avait l'impression que des cheveux lui sortaient de la bouche, qu'elle voyait des tigres surgir du plafond... Ça peut faire ça, l'ergot de seigle ?
Ah oui, tout à fait. Il y a même le procès des sorcières de Salem qui serait aussi à l'origine de l'ergot. Ouais. Et quand les laboratoires Sandoz ont travaillé sur ce champignon, ils ont découvert donc l'acide lysergique qui a donné naissance au LSD. Et le chercheur, la première chose qu'il a fait, c'est tester sur lui-même. Et il raconte du coup. Ouais. Il écrit. Alors au début, il dit mais j'ai de moins en moins, j'ai de plus en plus de mal à écrire. Puis après, il décide de rentrer chez lui en vélo. Ouais. Là, du coup, il prend un collègue pour l'accompagner. Et là, il raconte que la route, elle se déforme, que tout se déforme autour de lui. Il a eu extrêmement peur. Mais maintenant, oui. Le LSD, utilisé en très faible quantité, peut aider contre la démence, ouais. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer.
Ouais. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est presque interdit de chercher sur ce champignon qui semblait dangereux, qui semblait une drogue, hein, utilisée par les hippies en leur temps. Et puis, on y est revenu. Et comme vous le dites, on s'est rendu compte que c'est comme toujours, c'est la dose qui fait le poison, mais qu'à bien doser, ça agit de façon puissante sur l'esprit, mais parfois pour le bien.
Ah oui, et puis en plus, c'est un champignon qui est vraiment, là, c'est vraiment un trésor, parce qu'il sécrète aussi l'ergotamine, qui est très très bon pour les migraines. Ouais. Les gens l'utilisent, c'est plus efficace que le nurofen. Il y a aussi une autre, l'ergométrine, qui est sécrétée par ce champignon, qui permet de lutter contre les hémorragies pendant les accouchements. Donc vraiment, pour les pharmaciens, ça a été vraiment
c'est une source, c'est une mine, hein, ces champignons. Dans le monde des champignons, quelle proportion sont des champignons parasites ?
On estime à peu près à 30% les champignons parasites. Donc ça fait sur les 150 000 espèces connues. Ouais. Bon, il y a 5 millions d'espèces de champignons.
Mais estimées, 5 millions estimées et 150 000 connues.
C'est ça. Et sur les 150 000 connues, il y en a à peu près un tiers qui sont parasites.
Ouais. On le voit avec ces quelques chiffres que vous nous donnez. Les champignons, c'est, ils ne sont pas anecdotiques dans le règne du vivant, dans le monde du vivant. Ils ont une place à part entière. On les a souvent confondus avec les végétaux. On a mis beaucoup de temps à identifier que c'était une forme de vie tout à fait singulière.
Ah oui, tout à fait. Au départ, les gens pensaient que c'était des plantes parce que Aristote avait séparé le vivant en deux grandes classes, ceux qui bougent, les animaux, et ceux qui bougent pas, les plantes et les champignons. Mais ça chiffonnait tout le monde, hein, parce que les champignons, ils comprenaient pas comment ils se reproduisaient à l'époque. Ouais. Et quand ils ont compris, ils ont dit oui, mais ça fait quand même des plantes imparfaites. Voilà, ils étaient chiffonnés. Et c'est qu'en 1969, quelqu'un a dit, mais non, en fait, les champignons, ça n'a rien à voir avec les plantes, c'est lié aux animaux. Ouais. C'est des cousins, en fait, il y a une lignée, il y a 1,3 milliard d'années, qui a donné les animaux d'un côté et les champignons de l'autre.
Ça veut dire que nous, animaux, parmi tous les autres, nous sommes plus proches du champignon que les champignons ne le sont des plantes.
Exactement. Je dis dans mon livre que le cèpe est plus proche de nous que du poulet, que du concombre, par exemple, pour les végétariens.
C'est étonnant. Et si on remonte aux origines, les champignons étaient avant tout des champignons parasites ou ils le sont devenus au cours de leur longue évolution ?
Au départ, on pense, en tout cas la plupart des mycologues s'accordent à dire que le début des champignons, c'était des parasites. Ouais. Des parasites des algues ou d'organismes unicellulaires. Et on a encore des spécimens qui ressemblent à ces champignons primitifs. Ce sont les aphélides et les cryptomycota qui vivent dans les océans et ça ressemble à tout sauf à un champignon comme nous on l'imagine, puisque ça ressemble à un tout petit spermatozoïde avec une petite queue qui va rentrer dans les algues et manger l'intérieur et se reproduire à l'intérieur, produire plusieurs, là ça s'appelle des zoospores parce qu'elles sont mobiles. Donc ces champignons-là vivent dans les océans toujours de nos jours et ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux ancêtres des champignons.
Et ce sont eux, ces champignons primitifs du tout début de l'histoire de la vie sur Terre, qui sont les premiers, avec des bactéries je crois, à aller coloniser la terre ferme.
Oui, tout à fait. Les champignons, ils sortent de l'océan à peu près il y a 800 millions d'années, où ils ont un peu le pied entre deux eaux. C'est le cas des chytrides, qui sont donc les parasites qui attaquent les grenouilles, qui vivent sur Terre, mais la zoospore a besoin d'être dans l'eau pour pouvoir se déplacer. Et ensuite, vraiment, ils vont commencer à coloniser la surface de la Terre. Et on dit même que les champignons seraient à l'origine de la colonisation des plantes aussi, parce que c'est eux qui auraient permis aux plantes de coloniser la Terre.
Donc on en parle cet après-midi comme des parasites, mais soyons clairs, sans eux, nous ne serions pas là. C'est eux qui ont préparé le terrain, qui ont permis aux plantes de venir, et ensuite, du coup, aux animaux de s'installer. Mais s'ils n'avaient pas un peu préparé le terrain pour que les plantes s'enracinent, Ah non, jamais eu toute la suite de...
Non, non, c'est pour ça, les champignons, faut pas... Les... Bon, moi, j'ai fait un livre sur les parasites, parce que c'est ce qui m'intéressait. Oui. Mais c'est vrai que quand même, il y a, voilà, il y a un tiers des champignons qui décomposent la matière organique, sinon on croulerait sous les déchets végétaux. Puis il y a quand même aussi un bon tiers de champignons qui vivent en symbiose avec les plantes, oui, qui nourrissent indirectement les plantes.
Voilà, ça c'est pour replanter le décor, voilà. Mais nous, on va quand même s'intéresser pendant cette heure de bivouac avec vous aux champignons parasites, qui peuvent être vraiment responsables de grands dégâts, hein, sur des populations animales, sur des forêts entières, mais aussi dans la population humaine. Cet après-midi, nous partons explorer avec prudence le monde des champignons parasites avec notre invité Audrey Dussutour, le temps d'un bivouac sur France Inter. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. C'était Break on Through the Doors sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je me concentre principalement sur la présence d'un champignon sur ces grenouilles, le chytride.
Invisible à l'œil nu, le chytride, ou Chytridiomycète, est un champignon microscopique, une moisissure. Il serait responsable de l'extinction massive des amphibiens, constatée depuis 20 ans, sur toute la planète.
Il a déjà causé l'extinction d'une centaine d'espèces à travers le monde, donc c'est très sérieux. Et on craint tous qu'il s'étende à Madagascar, ce qui serait terrible, parce qu'il y a un très grand nombre de grenouilles spécifiques.
Un champignon responsable d'une hécatombe mondiale chez les amphibiens. Audrey Dussutour, c'est en pensant à ce champignon précisément que vous avez intitulé votre livre « Les champignons de l'apocalypse » aux éditions Grasset. Et ce drame écologique s'est produit tout récemment. Comment on a pris conscience du problème qui touchait les amphibiens, même dans les zones les plus protégées et les plus reculées de la planète?
Oui, c'est un congrès international d'herpétologie où les scientifiques ont commencé à discuter. Ils disaient « Ah tiens, moi j'observe plus telle espèce de grenouille ». Il y avait un Américain qui disait « Ah, mais moi non plus au Panama », un Australien qui disait « Ah, mais moi non plus en Australie ». Et ça avait l'air complètement décorrélé, mais petit à petit, ils se sont dit quand même « Ça arrive partout ». Et là, ils ont commencé à faire des recherches, et c'est là où ils ont trouvé sur une petite dendrobate, une petite grenouille d'Amazonie bleue, un champignon qui produisait une mycose. Alors ce champignon, il s'appelle Batrachochytrium dendrobatidis, surnommé BD.
Je suis admiratif de tous ces noms de champignons que vous pouvez comme ça nous sortir sans bafouiller.
Donc BD, et l'ont trouvé, et puis là ils sont observés sur toutes les grenouilles, en fait, elles étaient toutes touchées par cette mycose, sauf que la grenouille, elle respire avec sa peau, je crois que c'est 50% de la respiration qui se fait par la peau, et donc en attaquant la peau, en fait c'est comme s'il attaquait ses poumons, et souvent elle souffre, et souvent elle meurt d'arrêt cardiaque, ou des choses comme ça.
C'est ça, en fait ces grenouilles et les amphibiens en général sont très sensibles, la peau c'est vraiment leur surface d'échange avec le monde extérieur, donc ce champignon les a asphyxiés, et on les retrouve dans un état pas croyable, avec des comportements même.
Oui, alors le champignon au départ il germe, comme d'habitude, au niveau de la peau, il rentre, et il se met dans les couches vraiment inférieures de la peau, et puis là il va commencer à se reproduire, et comme la peau en fait elle migre vers la surface, comme chez nous, et la grenouille des squames. Et là, le champignon, il va arriver à la surface, et donc là, il va produire de nouvelles spores qui vont infecter les cellules d'à côté. Donc, on peut compter comme ça, par millimètre carré, plus de 1000 sporanges remplis de centaines de zoospores à l'intérieur de ces petits sporanges, donc sur la peau de la... Et donc, elle est recouverte comme ça, et ça fait comme des plaies, ou comme si la peau était à vif. Et au niveau du comportement, elles sont un petit peu apathiques. Si on les met sur le dos, elles peuvent pas se remettre sur le ventre. Les pattes sont écartées, alors que normalement, elles sont repliées sous le bas du corps. Donc, vraiment, ça a été une hécatombe. Et même ici en France, dans les Pyrénées, on a observé chez le crapaud accoucheur, en fait, des milliers de cadavres en bord de rivière, en bord de lac. Et c'est vraiment dramatique parce qu'on ne savait pas quoi faire. On ne sait toujours pas quoi faire. Donc là, bien sûr, heureusement pour nous, les grenouilles ont commencé à développer des résistances, mais ça prend du temps. Et on a perdu des espèces, dont la grenouille dorée du Panama.
Vous en parlez tellement bien de cette grenouille dans votre livre qu'on est vraiment peiné de savoir que cette grenouille a disparu. Alors décrivez-nous cette grenouille dorée, ce qu'elle avait
de particulier. En réalité, c'est un crapaud. Ça s'appelait une grenouille dorée. Non, mais il l'appelle grenouille dorée, mais c'est un crapaud au Panama. Et c'est David Attenborough qui la filme pour la dernière fois. C'est aussi ça qui est assez triste. Et le film, il est assez magnifique. C'est un crapaud qui vit près de rivières qui sont très très bruyantes. Du coup, pour communiquer avec ses congénères, il fait des mouvements de bras comme ça, un petit peu de danse hip-hop avec ses bras, et c'est comme ça qu'il communique. Donc, il filmait cette grenouille, et quelques mois après, elle a été complètement éradiquée par le champignon.
Mais c'est-à-dire que cette grenouille, qui était alors pas du tout en voie de disparition, elle était au statut d'espèce abondante, en un an, elle est passée du statut d'espèce abondante au statut d'espèce éteinte.
Ouais, exactement. Et au Panama, il y a une légende qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une grenouille dorée qui meurt, il y a une pépite d'or qui est créée, à mon avis, croulerait sous les richesses, parce qu'il y a vraiment toutes les grenouilles qui ont disparu. Et la deuxième grenouille que je cite dans mon bouquin qui a disparu, c'est la grenouille gastrique, qui est absolument fabuleuse, puisque elle, quand elle pond ses œufs, elle les met dans sa bouche, elle les garde dans son estomac qui fait couveuse. Et les petits, en fait, sortent par la bouche de la mère quand ils sont métamorphosés. Donc elle accouche des grenouilles.
Par la bouche.
Et donc ça, c'était quelque chose d'unique. C'était unique dans le règne vivant et elle a disparu.
Elle a disparu aussi. Vous écrivez, c'est la plus grande perte de biodiversité jamais causée chez les vertébrés par un organisme non humain. Parce que malheureusement, nous, on a déjà fait ce genre de dégâts. Et ça lui a valu le surnom de champignon de l'apocalypse. Et vous disiez, en France, le crapaud accoucheur a aussi été victime de ce champignon. Heureusement, les stratégies... Alors, ça prend du temps, vous nous le disiez, mais petit à petit, les grenouilles font de la résistance. Déjà, en France, on a remarqué qu'elles passaient plus de temps au soleil, les grenouilles.
Oui, souvent, les grenouilles, pour lutter contre les champignons, parce que les champignons, c'est des mésophiles, ils n'aiment pas trop la chaleur. Donc, c'est une manière de lutter contre le champignon, c'est se mettre au soleil, sur des pierres chaudes, pour que le champignon meure petit à petit, puisqu'au-delà de 30 degrés, il n'est vraiment pas content, Bidi. Mais voilà, c'est quand même difficile, et surtout... que dernièrement, il y a à peu près moins de 10 ans, il y a un nouveau Batrachochytrium qui est arrivé, qui s'attaque aux salamandres aux Pays-Bas. Et donc, lui, bien sûr, elles n'étaient pas prêtes non plus.
Et maintenant, c'est ravage parmi les populations et les espèces de salamandres. Pourquoi ce problème est-il survenu finalement assez récemment? Parce qu'on identifie à peu près la naissance du champignon, on pense qu'il est apparu entre 1890 et 1960, c'est quand même assez vague, en Corée. Et puis, voilà, il s'est propagé...
Le problème, c'est nous.
Oui, c'est ça, parce qu'on parle des champignons de l'apocalypse, mais on fait pas mal dans le genre aussi.
C'est la mondialisation et l'échange d'espèces exotiques, mais aussi surtout des grenouilles qu'on mange. Nous, les Français, on est les plus grands mangeurs de grenouilles. Il faut savoir qu'on mange centaines de millions de grenouilles par an. Et elles sont toutes importées à partir de l'Indonésie. et du Vietnam, donc on ne les élève pas. Et c'est pareil, la grenouille taureau, qui est un vecteur de ce champignon, un vecteur asymptomatique du champignon, qui est échangé partout dans le monde. C'est une grenouille qui vient de l'Amérique du Nord, mais pour avoir de la main-d'œuvre à pas cher, on l'a fait élever dans d'autres pays, en Asie ou en Amérique du Sud, et après on la réimporte pour la manger. Mmh. Et tous ces mouvements de grenouilles font que le champignon s'est baladé comme ça. Mmh.
C'est nous qui avons été le principal vecteur et diffuseur de ce champignon hautement toxique pour les grenouilles. Un autre champignon qui fait des ravages, alors cette fois-ci on retourne chez les insectes, mais de façon spectaculaire et un peu glaçante, on est chez les cigales, avec un champignon. Je vous laisse décrire le mode d'action, c'est assez terrifiant. Tout d'un coup on s'identifie un peu à ces cigales.
C'est mon champignon préféré.
Ah bah voilà, alors allons sur le champignon préféré.
Massospora, c'est un champignon qui attaque les cigales périodiques. Alors les cigales périodiques, c'est les cigales qui, aux États-Unis apparaissent tous les 13 ou 17 ans.
Elles ont un cycle de vie incroyable, c'est-à-dire voilà. Qu'elles sortent de terre tous les 13 ou...
C'est ça, en fait le développement larvaire dure 17 ans. Et donc la cigale émerge de la terre et c'est là où elle attrape des spores de Massospora. Le champignon rentre et là la première chose qu'il fait, c'est détruire les parties génitales de la cigale et de se reproduire au bas de l'abdomen, ce qui fait que la carapace de la cigale se brise et là on voit un bouchon fongique blanc, ça ressemble comme une structure de gomme. Et comme les cigales en fait elles émergent pour se reproduire, le champignon est sexuellement transmissible puisque les cigales équipées avec leur bouchon fongique vont se reproduire avec des cigales saines qui n'ont pas l'air d'être gênées par le fait que leur congénère ait le moitié derrière qui leur manque. Et alors là, il y a une chose incroyable, c'est que ce champignon, il sécrète des amphétamines pour éviter que la cigale mange, et comme ça, elle fait vraiment que se reproduire. Et aussi, elle crée une hypersexualisation des mâles, en particulier, qui vont se comporter comme des femelles quand ils sont en face de mâles. Donc, ils vont imiter un petit crissement que fait la femelle. Et les autres mâles n'y voient que du feu.
Ah oui.
Ils se reproduisent avec ces autres mâles qui sont infectés. Mais les femelles aussi souffrent d'hypersexualisation parce que chez la femelle cigale, elles arrêtent de se reproduire. Une fois qu'elles se sont reproduites, elles vont pondre des œufs. Donc, elles se reproduisent une fois en général. Mais là, ces femelles-là, elles ne sont jamais... en fait, satisfaites, puisqu'elles ne peuvent pas pondre des œufs, puisqu'elles ont un bouchon fongique à la place des parties génitales, et elles vont commencer à se reproduire avec plein de mâles. Et ensuite, du coup, ces cigales qui vont être contaminées, donc sexuellement, vont, elles, développer un autre type de spore du champignon qui s'appelle des spores de repos. Elles sont brunes, très friables, et là, le champignon, il mange tout l'intérieur de l'abdomen de la cigale, et elle devient un canadaire à spores, puisqu'en fait, la carapace se détruit, et toutes ces millions de spores tombent dans le sol, pour parasiter 17 ans plus tard la prochaine couvée de cigales.
Ça veut dire que les spores durent 17 ans, sont suffisamment résistants pour attendre la prochaine éclosion de cigales. On s'en rend compte, ce sont vraiment des manipulateurs, ils font de ces insectes des marionnettes, et on se dit finalement, les mammifères sont quand même relativement épargnés. Il y a une raison précise à ça?
Oui, on est épargné parce qu'on a deux super pouvoirs. Notre température corporelle, qui nous est à 37 chez l'humain, le champignon, il n'aime pas du tout ça, donc on est très peu touché. La plupart du temps, les champignons qui nous touchent, c'est superficiel, c'est-à-dire des mycoses. Et notre système immunitaire hyper performant, qui est capable de mémoire et qui est capable d'innovation, ce qui n'est pas le cas chez les insectes. Et donc on a un système immunitaire qui peut s'adapter à ces champignons, et c'est pour ça que les champignons touchent en priorité les personnes immunodéprimées.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même des victimes de champignons dans le monde, hein, dans la population humaine. Sur cette histoire, sur cette idée que les mammifères sont relativement protégés par rapport à d'autres animaux, certains scientifiques vont jusqu'à dire qu'au moment de la crise d'extinction des dinosaures, donc on est il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, les champignons ont même aidé les mammifères à prendre le dessus.
Pour c'est la théorie d'Arturo Casadevall qui dit que quand la Terre a été plongée dans le noir suite à l'explosion en fait de cet astéroïde, les champignons ils se sont retrouvés dans le noir dans un milieu humide et ils avaient des grands reptiles à disposition et donc ils ont parasité les batraciens, les reptiles et les mammifères ont été relativement protégés et ont pu se développer.
C'est-à-dire que pour eux ça a été un peu un paradis, cette catastrophe de la météorite qui plonge la Terre dans le noir. Pour eux, il n'y avait plus que des corps et des organismes en décomposition.
Exactement.
Ils se sont régalés.
Et ils ont même des preuves parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont trouvé dans les couches de sédiments 4 mm de spores de champignons, ce qui est énorme. Hein, 4 mm, sachant qu'une spore, ça fait à peu près 20 micromètres. Donc, ils montrent que pendant des années, il y a vraiment une domination des champignons.
Ouais. Donc, le malheur des uns a fait le bonheur des champignons, pour le coup. On va quand même dire que les champignons ne nous laissent pas complètement tranquilles. Combien d'humains meurent chaque année par une infection de champignons.
Entre 2 et 3 millions, alors ça dépend parce que on sait. Je pense que ces chiffres sont extrêmement sous-estimés parce que souvent les gens meurent des conséquences d'une infection fongique, mais sont souvent traités pour une autre maladie, un cancer, un sida, etc. Donc souvent, les champignons, ils vont attaquer les gens qui sont immunodéprimés. Donc c'est des champignons qu'on va, par exemple, inspirer. Nous, ça ne nous fait rien. Là, on est en train d'inspirer des champignons. Là, tout, à chaque inspiration, on inspire...
En grande quantité. Hein. Rappelez-nous combien dans un mètre cube il y a de spores de champignons.
Je sais qu'à chaque inspiration, on en inspire au moins 50 spores d'aspergillus. Et aspergillus, c'est celui qui crée l'aspergillose invasive chez les immunodéprimés. Donc quelque chose qui est anodin pour nous devient extrêmement dangereux pour quelqu'un qui est immunodéprimé, parce que là, le champignon se retrouve, finalement, il peut envahir, hein, il commence à pousser dans les poumons, et après, il va rejoindre le sang par le système immunitaire. Et donc là, c'est l'aspergillose invasive, et c'est des taux de mortalité qui peuvent atteindre 40%.
Alors pourquoi on en parle si peu, finalement? Parce qu'on entend beaucoup les virus, les bactéries qui font des épidémies et des ravages dans la population, mais les champignons, on a l'impression qu'ils passent un peu sous les radars.
Exactement, parce que c'est moins spectaculaire, c'est pas contagieux, bien qu'il y en a certains qui sont contagieux maintenant, mais en général, c'est pas contagieux.
Au moins les mycoses, on peut se les refiler
voilà,
à la piscine.
Exactement, ouais. Ça c'est contagieux par exemple. Ouais. Il y a certains candidats aussi. Donc c'est pas contagieux, donc il n'y a pas ces épidémies grandioses comme le Covid. Et puis surtout, c'est vraiment latent, parce que c'est des personnes qui sont déjà immunodéprimées, et donc ça va être un petit peu caché. Et c'est un peu dommage parce qu'on pense que 15% de mortalité pour les gens qui sont atteints de maladies infectieuses sont liées à des champignons. Donc et finalement, le financement qui est alloué aux recherches contre ces champignons pathogènes, il est extrêmement réduit par rapport à la mortalité en fait, qui est générée par ces champignons. Donc c'est vrai qu'à mon avis, je ne vais pas être complètement pessimiste, mais dans le futur, on risque d'être confronté à des infections fongiques de plus en plus nombreuses.
Ouais, parce qu'on ne prend pas suffisamment en compte cette menace-là et les risques.
Et surtout les résistances que ces champignons développent à nos médicaments. On a très peu de médicaments contre les champignons. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble, nous et les champignons.
Oui, on revient à cette idée-là. Comme on a 50% de notre ADN en commun avec ces champignons, ce qui les tue ne nous fait pas du bien non plus.
Exactement. Et donc, on doit viser ce qui est différent entre un champignon et un animal. Et donc, il n'y a pas tant de choses que ça, donc ça va être la paroi qu'on va toucher, donc la plupart des antifongiques touchent la paroi, ou l'ergostérol qui participe à la construction de la membrane chez les champignons, et on a finalement que trois grandes familles d'antifongiques. Or, ces mêmes antifongiques qu'on utilise dans les hôpitaux, ils sont aussi utilisés dans les champs, qui sont eux-mêmes attaqués par des champignons. Et donc souvent, on va récupérer, quand on inspire, des spores qui sont déjà résistantes, parce qu'elles ont acquis la résistance dans des champs. Et là, on se retrouve, on ne peut plus rien faire.
Ouais. On va avoir l'occasion d'y revenir parce qu'on va un peu s'intéresser aussi à l'agriculture dans la suite de cette émission. Parce que ces champignons parasites peuvent aussi faire des ravages dans la végétation, sur les arbres aussi, on en parlera, et parfois causer la perte de forêts entières. Nous allons donc voir ça dans la suite de ce temps d'un bivouac avec vous, Audrey Dussutour.
Ne pas le nier, ah. voilà tout. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir.
Il faut toujours écouter son corps, c'est ce que nous chantait Mathieu Bogart sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Au niveau de la couronne, on voit bien que cet arbre, il a moins de feuilles, des feuilles qui sont plus petites, jaunes. Il y a bien quelque chose qui se passe quand même.
Celui-là, il oui. est certainement malade.
Oui. Voilà. Alors pour en être sûr maintenant, on va aller le gratouiller sous l'écorce pour voir en fait si sous l'écorce on a des tissus nécrosés. Je ne sais pas si c'est des tissus. C'est assez profond.
Il est là. Là je l'ai là. Ce côté-là, il est là.
Ouais.
Donc on voit sous l'écorce, les tissus colonisés par le champignon ont pris une teinte brun chocolat qui est assez caractéristique. Et si on s'approche, normalement, ça sent la banane.
Ça,
c'est...
S'il est entièrement sec, il faut mieux l'abattre rapidement pour pas qu'il y ait des problèmes avec de tenue mécanique, surtout avec les usagers.
Oui, au bout de quelques années, il y a d'autres champignons qui viennent coloniser l'arbre, des champignons dits linivores, c'est-à-dire qui dégradent le bois, et qui peuvent provoquer des ruptures de branches peuvent tomber sur le canal. Quoi.
Nous étions au bord du canal du Midi avec les fameux platanes victimes du chancre coloré depuis 2006. C'était un extrait d'un reportage d'Interception sur France Inter. Audrey Dussutour, vous signez Les champignons de l'Apocalypse aux éditions Grasset, un ouvrage sur les champignons parasites. Et vous les mentionnez hein, au détour d'un chapitre, ces champignons qui sont en train de ravager tous les platanes qui bordent ce canal du Midi. Racontez ce qui leur arrive.
Ben, ils sont victimes de Ceratocystis platani, donc le chancre coloré du platane. Et moi, j'ai été témoin de ça parce que je fais beaucoup de vélo au bord du canal.
Vous êtes de Toulouse.
Voilà, je suis de Toulouse. Et à Toulouse, on les a gardés, ce qui n'est pas très très bien. Hein. Mais c'est dans l'Aude qu'ils les ont vraiment coupés. Parce que ce champignon, non seulement il attaque l'arbre, il tue l'arbre, mais il est extrêmement contagieux. Dans le sens où les spores, elles vont pouvoir, par l'eau du canal, en fait, migrer et contaminer les racines des autres platanes. Mmh. Et donc, ça va se faire de proche en proche. Mmh. Et il n'y a rien d'autre à faire que de couper l'arbre. On est obligé de le sacrifier. On ne peut pas le soigner. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'antifongique qui pourrait permettre de sauver cette carte postale du canal du Midi. C'est un peu terrifiant et c'est triste un peu quand on a été habitué de le voir vraiment avec sa couronne.
Mais
verte.
Bien sûr, alors des dizaines de milliers d'arbres ont déjà été abattus et les experts prévoient, vous le dites, que d'ici 10 à 15 ans, ils auront tous disparu, ces platanes. Alors on va les remplacer par... Il y a une dizaine d'espèces, je crois, qui doivent venir.
Ils vont mettre du chêne, etc. Mais bon, avant que ça pousse, nous, on ne le verra pas.
C'est quand même... L'idée, c'est de mettre 10 espèces. C'est une parade pour éviter que ça ne recommence,
exactement.
De varier les espèces, parce qu'un champignon a sa cible, il ne peut pas s'attaquer à plusieurs arbres à la fois.
Alors ça dépend, on a eu des mauvaises surprises parfois, où le champignon peut par exemple, on va y venir sur le châtaignier, peut, tant qu'il n'y a pas de châtaignier, aller sur le chêne et attendre de nouveau qu'un châtaignier pousse. Donc en fait, ils peuvent se mettre en attente dans d'autres plantes.
Comme des sortes de réservoirs en attendant. Alors il y a c'est aussi une histoire assez qui fait un peu aussi froid dans le dos, l'exemple de ce châtaignier américain, un colosse, un géant qui recouvrait les terres d'Amérique depuis des millions, je crois 85 millions d'années, et qui par toute petite spore a été complètement détruite.
C'était un arbre sur quatre, était un châtaignier. Alors, c'est pas tout à fait comme nos châtaigniers à nous. C'est des châtaigniers qui font 32 mètres de haut, qui sont larges comme des voitures. C'était vraiment des arbres magnifiques. Et je ne sais pourquoi, en 1900, il y a quelqu'un qui décide d'importer des châtaigniers asiatiques, alors qu'ils avaient déjà leur propre châtaignier. Mais non. Ils en importent d'Asie. Et le châtaignier asiatique vient avec son parasite, qui s'appelle Cryphonectria parasitica, qui est le champignon qui est responsable en fait, de la brûlure du châtaignier. Et là, le parasite, il est pour lui, mais là, c'est l'abondance. Il arrive sur un pays où il y a beaucoup, beaucoup de châtaigniers.
Donc, et des châtaigniers qui ne sont pas du tout préparés à faire face
exactement
à ce champignon.
Parce qu'ils n'ont pas eu le temps, eux, de développer aucune résistance. Et donc là, ça va être l'hécatombe. En moins de 40 ans, c'est 4 milliards d'arbres.
4 milliards d'arbres, il faut se rendre compte.
C'est ça.
C'est gigantesque.
Il n'y en a
nombre.
Plus. Ouais. En réalité, il n'y en a plus. C'est pas qu'ils n'existent plus, les châtaigniers. C'est qu'il n'y a plus la version adulte du châtaignier, parce que les châtaigniers peuvent, c'est un peu des phénix, ils peuvent renaître de leurs cendres par des racines. Mmh. Mais à chaque fois qu'ils poussent et qu'ils atteignent une espèce d'état adolescent, le champignon qui a l'attente dans un chêne, pof, saute sur le châtaignier et le détruit. Et donc, en fait, il n'arrive plus à repousser.
Et là aussi, il n'y aura aucune solution. On ne peut pas espérer qu'un résistant émerge et que toute l'Amérique soit repeuplée de...
Alors, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de faire des hybrides avec des châtaigniers européens qui résistent un peu mieux. Ils ont essayé de mettre des virus, parce qu'il y a des virus qui attaquent les champignons. Mmh. Ils se sont dit, on va utiliser un virus. Ça n'a pas marché. Ils ont fait des OGM. Ils ont fait des erreurs. Mmh. Donc, c'est un peu la catastrophe. Ils ont dépensé des millions de dollars pour le faire revenir. Et les gens, finalement, se disent, toute l'industrie qui était liée au châtaignier a disparu avec le châtaignier.
Ouais.
Donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une raison de remettre ce châtaignier ?
Ben, ne serait-ce que parce qu'ils étaient superbes, ces arbres, et que ça fait mal au cœur de les savoir disparus.
Mais pour l'instant, tant que le champignon est toujours là...
En France, revenons en France, il y a plusieurs espèces qui sont menacées par des champignons. J'en cite deux, mais il y en a beaucoup plus. Le frêne, qui est victime de la calarose, le mélèze, en Bretagne, où là aussi, donc là c'est le Phytophthora ramorum, moi aussi j'en cite quelques-uns, qui s'en prend au mélèze. Et là aussi, à chaque fois, on est démuni en fait, face à ces champignons.
On est démuni parce que c'est quand un champignon attaque un arbre, on le voit souvent trop tard. Parce qu'en fait, quand la spore, elle est microscopique, elle va rentrer. Et finalement, par exemple, dans le cas du châtaignier, les chancres qu'on voit, donc c'est des espèces de... comme des tumeurs, on les voit apparaître une fois que c'est trop tard. C'est-à-dire que le champignon a déjà envahi entièrement l'arbre et est en train de l'étouffer. Et là, on ne peut rien faire. Et les antifongiques qui ont été utilisés, à un moment donné, ils ont essayé quand même, par exemple, dans le cas du châtaignier, d'utiliser la bouillie bordelaise, qui est une espèce de mélange avec du soufre. Mais ça ne marche pas. Puis ils ne se voyaient pas enduire 4 milliards d'arbres avec de l'antifongique.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. On est démunis face à un champignon microscopique et qui terrasse des géants par milliards.
Il se disperse par le vent, donc il n'y a aucun moyen de contrôler les spores, rien.
Alors dans l'agriculture aussi, les champignons peuvent poser des problèmes. Par exemple, dans les vignes, comme ici en Alsace, dans ce vignoble en culture biologique en 2023.
Dès que c'est encore blanchâtre, rot gris, et là c'est en train de passer en mode rot brun, mais tout ça, ça veut dire que ça meurt. Hein.
Le mildiou, une maladie redoutable sur les tomates et les pommes de terre, mais aussi sur les vignes. Sur cette parcelle, cet ouvrier viticole ne peut que constater les dégâts.
On voit que les raisins sont attaqués. Hein, donc ils sont en train de dessécher, ici et là. Hein. Et tout ça, l'ensemble de la grappe va mourir. Donc on croit que les autres raisins vont grandir, pas du tout.
En cause, les fortes pluies qui touchent l'Alsace depuis le mois de juin. Sur ce domaine, on craint jusqu'à 50% de pertes.
Cette année, on ne sauvera pas la récolte. Donc 20 ans d'expérience et on se retrouve quand même en difficulté. Donc c'est vraiment une année comme jamais il y a eu.
Xavier Baril, un vigneron ouvrier agricole inquiet dans la commune de Rohr-Schwihr, en Alsace. Il le dit, on n'a pas vu ça depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ces attaques de champignons sur les cultures, elles ont toujours existé ou aujourd'hui, elles s'accélèrent, Audrey Dussutour.
Alors, il faut juste noter que le mildiou n'est pas un champignon.
Ah, alors j'ai raté mon coup, là.
Alors, c'est pas grave, c'est un oomycète, longtemps classé chez les champignons. Ils se sont aperçus, il n'y a pas si longtemps, que c'était lié aux algues. Mais le mildiou, il y a le mildiou de la pomme de terre, etc., qui a créé. Mais c'est la même. On est quand même sur le même principe. On est d'accord. Sur le même type d'organisation, mais c'est plus proche des plantes, pour le coup. Et oui, on retrouve avec le réchauffement climatique, on va trouver des distributions de champignons qui vont changer. Et par exemple, les aspergillus, il y a eu une étude récente qui a montré que on voit que le nord de l'Europe, qui n'était pas du tout touché, par exemple, maintenant, est entièrement touché. Ils ont publié dans Nature, là, un papier qui montre, en fait, où va être le champignon dans une dizaine d'années, en prenant en compte le niveau du réchauffement climatique. Et ça, c'est vrai que c'est effrayant. On a aussi notre responsabilité, au-delà de la mondialisation, c'est la monoculture.
Ouais.
Le fait de faire des grandes étendues de la même plante, c'est des autoroutes pour les champignons, parce qu'ils peuvent passer d'arbre en arbre, de plante en plante, et pour Le seul moyen de lutter souvent chez champignons, c'est de faire varier les cultures, faire de la rotation de cultures, parce que souvent les spores, elles restent dans le sol. Donc l'année d'après, elles vont réinfecter les mêmes plantes. Donc il faudrait vraiment revoir aussi la façon dont on fait de l'agriculture.
Et je note aussi cette information que vous nous avez donnée un peu plus tôt dans l'émission, mais en utilisant des fongicides sur les cultures, on crée des résistances pour des champignons qui ensuite peuvent être mortel pour les personnes immunodéprimées.
Exactement, parce que les champignons qui nous attaquent, ce n'est pas des champignons qui sont spécialisés sur l'humain du tout. C'est des opportunistes, c'est souvent des saprobes qui vivent dans le sol. Nous, on les respire. Eux, ils germent là où ils se trouvent. S'ils se trouvent dans un poumon, ben, ils vont germer dans un poumon. Et mais oui, peut-être ils ont reçu des antifongiques juste avant.
Alors, vous parlez dans votre ouvrage, Audrey Dussutour, du fongicène, un peu par opposition ou en tout cas analogie avec l'anthropocène, où on dit que les humains sont en train de tellement transformer le monde qu'on entre dans l'ère de l'anthropocène. Et vous, vous vous dites, mais finalement, et si nous étions dans l'ère du fongicène?
En tout cas, je pense que les champignons nous survivront. On va en perdre beaucoup. Il y a 1300 espèces qui sont sur la, de champignons qui sont sur la liste des espèces menacées. Donc, tous les champignons ne vont pas survivre. Mais il faut le savoir que les champignons, et en particulier les ascomycètes, ce sont des opportunistes. Ils savent faire de tout à partir de rien. Ouais. Je veux dire, ils savent se nourrir de lessive dans notre machine à laver. On trouve des champignons dans les moteurs d'avions. On les trouve dans des centrales nucléaires. Je pense que les champignons, il y en a certains, ils peuvent vraiment résister à tout. Et eux, nous survivrons.
Ouais. Il est sûr que les champignons survivront à l'espèce humaine.
Peut-être pas toutes les espèces, mais...
merci Audrey Dussutour. Je rappelle le titre de votre livre, Les champignons de l'apocalypse, aux éditions Grasset, avec une bonne dose de science-fiction aussi, hein, c'est très intéressant. Restez avec nous dans un instant, nous avons rendez-vous avec le naturaliste de terrain Marc Giraud pour parler des moustiques.
Somebody. I wanna lean right down beside her, but it might not be our time.
C'était Love is Cruel, chanté par Miles Kane sur France Inter. Et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites?
Et bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Naturaliste de terrain, tous les lundis, vous nous emmenez regarder la nature. Moi, je pensais que vous alliez nous émerveiller avec des petites bêtes charmantes. Et aujourd'hui, vous avez eu envie de nous réconcilier avec celui qui aimait ce bourdonnement, ou plutôt celle qui vient gâcher nos nuits, nous tournicoter autour des oreilles, le moustique, et plus particulièrement la femelle. Hein. C'est elle, en fait, qui produit ce...
Elle produit un son plus aigu qui attire les mâles, et c'est elle qui pique.
Oui. Alors, vous aviez envie de nous réconcilier avec la femelle qui pique. Okay, la parole est à la Défense.
Alors, ce n'est pas exactement nous réconcilier, mais disons qu'à chaque fois qu'on parle des moustiques, on n'en parle que comme fléau. C'est le contraire des champignons. On ne parle que des cèpes et des girolles. Et Audrey nous a montré qu'il y avait autre chose. Moi, je voudrais montrer qu'il y a autre chose aussi chez les moustiques.
Pas que le paludisme, la dengue, le chikungunya ou Zika.
Voilà, ça, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, c'est une calamité pour l'humanité. C'est fait. On l'a dit. Mais c'est autre chose aussi. D'abord, il faut se rappeler que chaque moustique commence aquatique. Les femelles pondent des œufs sur l'eau, qui deviennent des larves aquatiques. Et ces larves, chacune de ces larves, filtre 2 litres d'eau par jour. Mmh. Donc vous imaginez les milliards de larves de moustiques, la station d'épuration que ça donne. Mmh. Ensuite, ça fait de la nourriture pour les truites, pour les poissons, etc. Et quand ça émerge en adulte volant, ça nourrit les martinets, les hirondelles et tout ça. Donc on a besoin de ça pour les oiseaux, pour les grenouilles, pour tout le monde.
Pour les chauves-souris.
Et pour les chauves-souris et pour les poissons, pas de piqûres, pas de fritures. Donc c'est utile.
Jolie formule. Et qu'est-ce qui les attire vers nous, ces moustiques, Marc ?
Alors ce sont nos odeurs. Je ne voudrais pas être désobligeant, oui. Mais ils sont attirés par l'acide lactique ou butyrique. C'est-à-dire la respiration, la transpiration, ou le méthylphénol. Ça, c'est une molécule qu'on trouve en même temps dans des fromages comme le gouda et les pieds. Mmh. Voilà. Mais ce n'est pas la lumière.
Oui, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'éteindre la lumière pour éviter les moustiques.
On dit le soir, fermer les fenêtres, ça va attirer les moustiques. Non. Moi, je fais des affûts, par exemple, pour voir des blaireaux en pleine nuit, je me fais piquer. Hein. Ouais. Et si vous êtes agacé par un moustique dans votre chambre, vous allumez la lumière, le moustique se planque. Mmh. Donc, en fait, non, la lumière attire les papillons de nuit. Parce qu'ils sont, leur repère, c'est à la lune qui est statique. Donc, dès qu'ils rentrent près d'une lumière, ça bouge. Donc, ça les affole complètement. Ils sont affolés par la lumière artificielle. Mmh. Les moustiques, ils n'en ont rien à faire.
Et il y a longtemps qu'ils nous embêtent, ces moustiques, Marc ?
Ah bah, depuis l'aube de l'humanité.
Ouais.
Et ce sont les pêcheurs égyptiens de l'Antiquité, d'ailleurs, qui se protégeaient avec des filets à petites mailles. Ouais. Et c'est eux qui ont inventé la moustiquaire.
Ah oui ? Ouais. On est sûr de ça ?
Bah oui.
Ah ouais, c'est
oui,
rigolo. Les Amérindiens aussi ont des histoires avec les moustiques.
Oui, ils se protégeaient avec la graine du rocouiller, le roucou, qui est rouge. Donc, ils s'enduisaient de ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on les a appelés les peaux rouges.
Ah,
c'était leur crème anti-moustique.
C'était leur anti-moustique, c'est à ça qu'on...
oui.
Pourquoi les pesticides sont efficaces pas très longtemps ? On a l'impression qu'assez rapidement, le moustique contourne.
Il mute vite.
Ah oui,
enfin, moins aussi. Qu'une bactérie, c'est toutes les 30 minutes, je crois, ou les 20 minutes. Enfin, bon, nous, c'est tous les 20 ans ou 30 ans. Donc, ils ont quelques longueurs d'avance dans les courses aux armements. Et une preuve de la rapidité du moustique à se reproduire, c'est l'histoire du métro de Londres.
Ouais.
Il y a un peu plus d'un siècle qu'il a été construit. À l'échelle géologique, c'est rien du tout. Mais les moustiques qui ont été enfermés ont prospéré parce qu'il y a des flaques d'eau et il y a des rats et des humains pour pomper le sang, donc il y avait tout ce qu'ils font. Et ils ont tellement évolué différemment des culex pipiens, les moustiques de l'extérieur, que ce n'est plus la même espèce. C'est une nouvelle espèce qui est apparue. Et en plus, sur 3 lignes de métro londoniens différentes, il y a 3 formes génétiques différentes qui sont en train de devenir elles-mêmes d'autres espèces. Donc ça va très vite, l'évolution.
Chaque ligne de métro aura son espèce de moustique.
On va lui donner un nom.
Mais vous pensez vraiment que c'est en nous racontant ce genre d'histoire que vous allez nous réconcilier avec les moustiques?
Alors, je vous ai dit que c'était utile, quand même.
Oui, c'est vrai.
La dernière fois, on parlait de martinets. Sans moustiques, il y aurait moins de martinets, moins d'hirondelles. Il y aurait moins de vie. De toute façon, il faut accepter les désagréments, parce que quand on lutte, on l'a vu avec les fongicides, on le voit avec les pesticides, on est aussi dans l'ère du boomerang, c'est-à-dire qu'on a un effet boomerang de toute la négligence qu'on a eue par rapport à l'environnement.
Mmh.
Donc méfions-nous de ce qu'on fait aussi pour se débarrasser des petites gènes.
Ouais, on va continuer avec vous sur les moustiques, mais Audrey Dussutour, est-ce qu'il a déjà été envisagé d'utiliser des champignons, pour ceux qui n'étaient pas complètement réconciliés avec les moustiques, d'utiliser les champignons pour lutter contre les moustiques?
Oui, avec 2 champignons différents. Le premier, c'est une microsporidie. Pour éviter que les œufs de Plasmodium puissent se fixer, ils mettent un champignon qui détruit toute la surface de l'intestin. Donc l'œuf de Plasmodium ne peut pas se fixer, donc le moustique ne transmet rien. Et le deuxième, c'est Metarhizium, c'est un champignon qui va tuer Plasmodium à l'intérieur du moustique. Donc la stratégie, ce n'est pas de tuer le moustique, c'est de tuer d'abord le virus, enfin le parasite, ce n'est pas un virus, c'est un parasite, et ensuite de tuer le moustique. Donc vraiment, c'est et donc pour ça, ils vont faire des champignons génétiquement modifiés dans lesquels ils vont mettre des gènes qui sont des gènes humains qui vont lutter contre le Plasmodium et même des gènes d'araignées venimeuses pour que le champignon puisse produire des toxines encore plus virulentes contre le Plasmodium.
Marc Giraud, c'est bien parce qu'à cette occasion-là, Audrey nous le rappelle, c'est pas le le moustique qui transmet vraiment la maladie, en fait, non, il est porteur, il est parasité. Vecteur. Il est parasité vecteur. Lui-même. Mmh. Il est parasité. Allez, on termine, Marc, avec une enquête criminelle dans laquelle un moustique a joué un rôle déterminant.
Oui, c'est une histoire que je tiens de Jacques Pradel. Il m'a raconté ça, c'était très marrant. Il s'intéresse aux affaires criminelles. Et ça, c'est l'histoire de... Ça se passe en Sicile. C'est sur une plage de rencontres de prostituées homosexuelles. Et il y en a un qui a été retrouvé étranglé. Donc, omerta. Personne ne raconte rien, sauf qu'on a vu une grosse berline noire de location. Donc les enquêteurs remontent la piste et ils trouvent la voiture et l'appartement du suspect. Mais lui, il a été malin, il a tout nettoyé, zéro trace biologique. Sauf que le spécialiste de l'ADN, il a vu un moustique écrasé sur un mur, il s'est dit tiens, machinalement, on va analyser. Et il y avait le sang de la victime dedans, donc le coupable a été écroué et tout ça grâce, grâce ou à cause d'un moustique.
Ouais, la pièce à conviction, ça a été donc ce moustique. Merci Marc Giraud. Je signale que vous avez publié « Reconnaître facilement les insectes » aux éditions Delachaux et Niesley.
Il y a des moustiques dedans.
Il y a des moustiques dedans, mais pas que. Et c'est vraiment le petit livre au petit format à mettre dans la poche pour aller ensuite en pleine nature et identifier les insectes. Et puis il y a aussi « La nature en bord de chemin » chez le même éditeur Delachaux et Niesley.
Puisqu'on parle de parasites, j'ai aussi écrit « La vie rêvée des morpions ». Et là, on parle de toute cette chose-là.
Et c'est aussi chez Delachaux et Niesley. Bon, bah, vous avez bien fait de le dire. Merci, Marc Giraud. Et à la semaine prochaine. Et puis, je rappelle le titre du livre de notre invité, « Les champignons de l'apocalypse » aux éditions Grasset. Et il y a une part de science-fiction dans ce livre, hein, je tiens à le dire, Audrey, parce que c'est très plaisant à lire, parce que justement, vous nous emmenez aussi dans une histoire avec une scientifique aux prises avec un champignon qui fait des ravages dans la population. Allez, le temps d'un bivouac, replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.